Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Nous, la Pâque chrétienne, on dit, ben pourquoi, tu sais, pourquoi la Pâque juive, pourquoi la Pâque chrétienne? C'est-tu la même affaire? C'est-tu différent? Puis, en tant que société, on peut dire chrétienne, même si on est très athée, en tant que, mettons, société québécoise, on se rappelle, tu sais, bon, la Pâque à chaque année, puis on se rappelle la croix, on se rappelle de Jésus-Christ, mais... Et on parle entre nous autres, entre Québécois, puis on se dit, tu savais-tu que la Pâque chrétienne est enracinée dans une autre Pâque qui est bien plus vieille? Puis là, le Québécois typique, tu sais, qu'on n'a pas trop lu nos Bibles, tout ça, on dit, hein, voyons donc, toi. Et puis, on apprend en lisant les Écritures que Pâque avec un S, ce n'est pas une faute d'orthographe. Mais il y a un S parce qu'il y en a deux. C'est les Pâques. Et donc, Jackie, justement, aujourd'hui, en nous parlant de la Pâque juive, on va être capable de faire la connexion avec la Pâque chrétienne. Et donc, l'année passée, on a vécu quelque chose. On était assis pareil. Tout était à peu près semblable. Puis je me suis dit, puis on s'est dit entre nous autres, hey, j'aurais aimé ça que ma mère soit là, puis qu'elle entende ça. J'aurais aimé ça que ma fille, mon fils, peut-être était là, mais mon fils, mon père, j'ai invité mon père, j'ai invité mes neveux, mes nièces, j'ai invité bien du monde. J'ai dit ça serait le fun qu'ils puissent entendre ça parce que c'est vraiment particulier. Fait qu'on va avoir un temps vraiment particulier aujourd'hui encore une fois pour comprendre un petit peu plus la culture juive, l'arrière-plan juif des Écritures. Parce que Dieu avait promis par Abraham de bénir toutes les nations par la descendance d'Abraham, et le Messie, le Sauveur Jésus, est un Juif, hein, notre Sauveur est Juif, les Écritures viennent du peuple juif, et donc c'est un honneur à l'Église Grâce et Vérité de travailler justement avec Jackie pour qu'elle puisse nous bénir par la parole de Dieu. Alors, sans plus attendre, je t'invite, Jackie, on peut l'accueillir.
L'affaire pour changer les diapos, c'est en haut. Shalom, shalom. J'arrive d'Hawaï où je disais tout le temps shaloha, au lieu de aloha. Donc, c'est le décalage horaire que j'ai dans le corps, mais par la foi, là, on va passer un bon moment ensemble. C'est très agréable d'être avec vous. C'est facile de venir ici parce que vous êtes famille pour moi. Donc, c'est pas comme si je dois essayer de me réveiller à cette heure-ci, là, quand mon corps dit qu'il est 4h30 du matin, et puis aller à une place étrangère que je connais pas, ici, je me sens très bien avec vous, donc je suis contente de voir des gens de la famille que je connais depuis, ça fait 11 ans maintenant. Donc, c'est ma prière que vous alliez être bénis en voyageant dans l'histoire, dans le temps, et on va voir tout ce que le Messie a fait et tout ce qu'il fait pour nous encore et comment grand est son amour pour ce monde entier. On va faire une démonstration de la Pâque. Ça représente un temps rempli de nostalgie pour moi parce que chaque année, en tant que fille vivant dans une maison où il y avait de la violence psychologique et verbale et émotif, je vivais pour le jour de la Pâque parce qu'on m'avait promis que le Messie, qui apporterait de la paix sur toute la planète, il viendrait un soir de la Pâque. Donc moi, je comptais les jours et je m'habillais, je me tirais aux quatre épingles parce que je devais rencontrer celui qui allait me sauver de tous mes troubles et tous mes pleurs. Et puis, donc, j'avais très hâte à la Pâque chaque année. Donc, on va vivre une expérience qui n'est pas vieille de 2000 ans, mais qui est vieille de 3500 ans. Beaucoup plus que le temps, beaucoup plus loin que le temps de Jésus. Et chaque année, les Juifs se mettent ensemble pour fêter cette Pâque-là comme Dieu l'a ordonné dans le livre de Exode. Et par tradition, ils ont gardé un certain ordre. Le mot ordre en hébreu, c'est le nom pour tout le repas qu'on fait. C'est sûr qu'on ne fait pas un repas comme les Juifs font, là. Ils font toute une soirée, là, qui dure des heures et des heures et des heures. Mais le mot pour tout, toute la cérémonie s'appelle Seder. Seder veut dire ordre. Et on va passer dans un certain ordre. On va suivre, vous avez tous joué à Jean D. Aujourd'hui, c'est Jackie D, OK? Donc, quand je vous dis de lever quelque chose ou déposer quelque chose, vous allez suivre ce que je dis sans sortir de ce que je vous dis de faire parce qu'il y a un certain ordre à suivre. Et puis, ce qui est spécial, c'est que je rencontre mon directeur, M. Jacques-Isaac Cabizon. Et puis, lui, il est né au Maroc avec d'autres traditions. Sûrement, lui, il fête la Pâque différemment. Mais non. On chante les mêmes mélodies, même si mes grands-parents vivaient dans l'Europe de l'Est, que lui, ses grands-parents chantaient au Maroc. Donc, ça montre à quel point c'est loin. Combien c'est semblable. Les Juifs partout dans le monde ont fait ça. Et puis, où on voit la façon d'observer, on imaginerait que ce serait très différent de l'Afrique à l'Europe maintenant, parce qu'on est tous des Juifs. Et ça retourne beaucoup plus loin que le temps de Jésus. Et pour les croyants, aujourd'hui, la Pâque prend toute une portée parce que ce qu'on va regarder, c'est dans vos petites boîtes et sur l'assiette ici, c'est pas mal les mêmes choses que Jésus avait sur sa table lors de son dernier repas ou la dernière Pâque. Vous n'avez pas besoin de les ouvrir pour le moment. Et on va voir que l'Église et Israël sont très reliés et sont très reliés à la Pâque. Donc, et les Juifs et l'Église, qui est composée de Juifs et de non-Juifs, on est très attachés à cette Pâque-là. La Pâque a été instituée à la naissance d'Israël. Israël, c'est le peuple, c'est une nation, ce n'est pas une religion, qui est issue d'Abraham, comme pasteur Jean-Sébastien dit, Abraham, mais aussi Isaac, et aussi Jacob, et aussi ses 12 fils. Donc, si on est descendant de ces 12 fils-là, on est juif. Et puis, on voit que la dernière scène, comme on dit, était une Pâque juive qui remontait, comme je disais, de 3500 ans. Et puis, on va voir que la Pâque est mentionnée 120 fois dans la Bible. 120 fois, c'est pas peu. Et dans le Nouveau Testament, 27 fois. Et ça, c'est le début d'Israël comme nation parce que ça marque le temps que les Juifs ont été libérés de leur esclavage en Égypte. Et aussi, la Bible nous dit que le premier mois de toute l'année, c'est ce mois-ci. Donc, je devrais vous souhaiter bonne année à tous. Biblique. C'est le seul nouvel an qui est mentionné dans la Bible. Donc, surprise. Et quand ça vient la fête de la Pentecôte, c'est le temps de la naissance de l'Église, donc on devrait dire bonne fête. Bon, ça c'est pour plus tard, au mois de mai vous allez fêter ça. Et on va découvrir les éléments importants et à l'époque de Jésus et 1500 ans avant et même aujourd'hui. Et on va parler de l'agneau, on va parler de son sang et comment ça a protégé les gens d'Israël. Qu'est-ce que l'agneau représentait? Vous m'avez vu en photo en tenant un agneau. Vieux de deux semaines. C'était gros pour deux semaines. Hein? C'était un Alberta. C'était une espèce qui naît énorme, en tout cas. Et puis, mais comment on fait avec le sang? Qu'est-ce qu'on fait avec le sang de l'agneau aujourd'hui dans nos vies? Donc, concernant l'Église, je pensais que c'est cette diapo-là. Bon, désolé, je pensais que cette diapo était là, mais c'était peut-être autre chose. Donc, concernant l'Église, on voit que les deux ordonnances que Jésus a données à l'Église, une des deux, est associée avec ce repas juif. Quand on fait la fraction de pain ou la Sainte-Sainte ou communion, ça vient d'un verset que Paul a dit en 1 Corinthiens 11, 24, quand il a dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, la fraction de pain prend son origine à la Pâque juive. Et on va voir comment c'est relié. Et on va voir comment il y a d'autres passages qui prennent plus de sens, comme quand on pense à Jean le Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et il associait, Jean venait d'une famille de Lévites. Des Lévites étaient ceux qui étaient chargés des sacrifices et tous les rituels autour du temple. Donc, Jean, en tant que Lévite, a reconnu un agneau et il a reconnu l'agneau de Dieu. Il a associé Jésus avec le sacrifice qu'on devait faire plus tard. Il y a un autre passage d'un autre homme juif qui est pharisien et lui, il connaissait aussi les sacrifices du temple. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 5, 7, « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc, il a associé le Messie avec l'agneau pascal. Donc, ça monte loin là, dans l'esprit d'un croyant et c'est l'élément fondateur de notre salut parce que ça relie ensemble l'agneau et le Messie. Et comme on va voir bientôt, tout comme le sang de l'agneau a couvert les Israélites en Égypte à l'époque et ça les a protégés du jugement quand ils sont sortis de l'Égypte, le sang du Messie peut nous couvrir aujourd'hui et nous protéger d'un jugement qui est encore futur pour nous aujourd'hui. Mais avant de regarder cette fête de la Pâque qui parle de la rédemption, on va regarder l'histoire de la rédemption et puis qui précède la Pâque et qui suit aussi la Pâque. On va situer la Pâque dans l'histoire, si vous voulez, et voir quelque chose de très beau. Comment Dieu a préparé pour nous, dès le début du temps et à travers toute l'histoire, une façon de le connaître, une façon d'être sauvé de sa colère juste. Combien il désire de partager notre futur avec lui en envoyant son fils, l'agneau pascal, pour notre rédemption. Vous rappelez-vous le premier péché dans l'histoire du monde? C'est en Genèse 3, c'est là où l'histoire de la rédemption commence. Et Dieu avait décrété que si Adam et Ève mangeaient d'un seul arbre, ils pouvaient tout manger sur la planète, tout ce qu'ils voulaient sauf un arbre, et ils ont choisi de manger de cet arbre, ils devaient mourir. Mais quand ils en ont mangé, est-ce qu'ils sont morts drette sur le champ? Non. Quelque chose d'autre est mort, par exemple. Dieu a pourvu une couverture, un genre de couvrir leurs péchés. Et c'est la première fois dans l'histoire du monde jusqu'à ce moment-là que le sang est tombé sur la terre. Parce que Dieu a tué des animaux et leur sang a coulé par terre. Quelque chose a dû mourir pour ce péché-là. Et Dieu a fait quelque chose qui couvrait leur péché jusqu'au sacrifice ultime de Jésus, qui n'est pas juste là pour couvrir les péchés, mais pour ôter complètement les péchés du monde entier. Ça, c'est la première chose que Dieu a fait. En Genèse 3, 21, l'Éternel fit à Adam et à Ève des habits de peau et il les en revêtit. Ça, c'est le premier acte de rédemption dans les Écritures. Et ça commence un précédent. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est un gabarit, un modèle qui suit. C'est que ça prend toujours du sang pour pardonner un péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait payer pour chaque fois qu'on pêche contre Dieu. Et cet animal représente un type du sacrifice final et ultime, le sacrifice de Jésus quand il est venu sur la terre. Et juste avant de faire cet acte, Dieu a expliqué son affaire. Il a expliqué pourquoi il avait tué ces animaux. Et il a donné une promesse qui est comme un miracle. Et puis, il a parlé à l'ennemi. Et en parlant à l'ennemi, il a parlé de comment ça allait être réglé une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'il a dit en parlant aux malins en Genèse 3, 15? Il a dit, « Je mettrai l'inimitié entre toi, l'ennemi, et la femme, entre ta postérité et à sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, on entend parler de celui qui va venir, qui va écraser la tête du malin. Celui qui va mettre fin à tout le mauvais dans le monde, toute la méchanceté au monde. Et ça va être la semence d'une femme. Mais c'est difficile à comprendre parce que dans toute la Bible, on parle de la semence de l'homme. On ne parle jamais de la semence d'une femme. Ça devait, peut-être pas à ce moment-là, mais ça doit faire poser des questions à tout le monde qui entend ça. Mais Ésaïe ajoute plus d'informations. À ça, Ésaïe arrive beaucoup plus tard et il dit en Ésaïe 7, 14, « C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel. Cet enfant, cet Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous, va être né d'une Vierge, d'une femme. Mais qui est-elle? Quel est son nom? » Mais 700 ans plus tard, son nom et son identité nous est révélé. Son nom est Myriam. Nous la connaissons en français comme Marie. C'est une jeune femme juive que Dieu a choisie pour porter le Messie. Et on trouve ça dans le livre qui a été, un des deux livres qui a été écrit par un médecin juif dont le nom est Luc. Et en Luc 1, 35, on voit l'ange Gabriel. C'est le même qui a parlé au prophète Daniel et lui a parlé, a dit en Luc 1, 35, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc, à travers la protection de l'Esprit Saint, cette Vierge pouvait enfanter, concevoir et enfanter la semence qui allait rester parfait pendant toute son existence, qui est le Fils de Dieu. Donc, Dieu était impliqué personnellement dans le salut de l'homme en mettant cette semence dans la femme et en étant lui-même la semence. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle de la rédemption dans les Écritures qui nous amène à notre salut, comme vous voyez avec les flèches. Mais est-ce que Adam et Ève ont compris tout ça? Monsieur Gabizon dit, c'est mon directeur qui a écrit ça, il a dit, je crois que oui. Parce que où est-ce qu'on peut voir ça dans la Bible? Mais Adam a fait quelque chose de spécial quand il a entendu cette prophétie messianique. En Genèse 3, 20, il a dit, c'est dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Mais on vient de prononcer une sentence, une punition de mort, et là, Adam parle de vie, parce que le nom Ève veut dire vie. Donc, comment ça, avec la mort, il parle de vie? C'est parce que il y avait cette malédiction qui a été prononcée contre Adam et Ève, et lui avait la foi que cette semence qui devait venir de la femme allait leur apporter de la vie. Il a pris cette vérité, il l'a appliquée. Il a viré la malédiction en bénédiction en croyant la parole de Dieu. Croyez-vous la parole de Dieu? C'est le même processus pour vous. Si vous croyez, si vous mettez votre confiance d'être sauvé du jugement à venir, ça va vous sauver aussi. Vous recevez la promesse de Dieu et vous l'appliquez, comme Adam a fait, et vous êtes sauvé du jugement à venir. Ève a cru aussi à cette promesse-là, puis elle a dit quelque chose d'étonnant, elle aussi. Parce que ça confond beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentateurs juifs. Parce que qu'est-ce qu'elle a dit en Genèse 4:1? Elle a dit, « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta. » Et si vous voulez savoir le texte hébreu, c'est exactement ce que vous avez devant vous. Ce n'est pas ce que vous avez dans vos Bibles. J'ai cherché dans toutes les traductions françaises que j'avais à ma portée hier soir. J'ai dû chercher dans 12 traductions françaises de la Bible, puis il n'y en a pas une qui a donné ce qui est écrit, et moi, je peux lire au moins ce verset-là en hébreu. Et c'est ça que ça dit en hébreu. Ça, elle dit, « J'ai formé un homme, l'Éternel. » Un homme, l'Éternel, un homme Dieu. Et on voit que beaucoup de rabbins ne comprennent pas, donc ils ajoutent des mots avec de l'aide de l'Éternel, par la grâce de l'Éternel, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais elle a compris qu'elle elle n'avait jamais enfanté, donc elle a eu un bébé, puis elle dit, voilà la semence qui va nous sauver de tout ce problème dans lequel on se trouve. J'ai donné naissance au Rédempteur. Elle avait la foi, mais son timing n'était pas correct. Là, mais elle l'a appelé, en fin de compte, Yahvé, Jéhovah. Elle a appelé son fils Jéhovah. Donc, on voit combien puissant est le message du salut tout de suite au début de l'histoire. Mais ça, c'est juste le début d'une longue, longue histoire de symboles, de traditions, et pas de traditions, mais de types que nous voyons dans la Bible et les prophéties qui remplissent l'Ancien Testament. Et ça nous montre tous le Messie. Comme, par exemple, Jésus a raconté, si peut-être vous avez un verset préféré dans la Bible ou une scène préférée, voici la mienne. Si je pouvais me mettre n'importe où dans la Bible, ça serait à cette scène ici dont Luc parle en Luc 24:27. J'aurais aimé être une mouche sur une de leurs robes parce qu'il est sur le chemin d'Emmaüs avec deux hommes après sa résurrection, deux hommes qui ne reconnaissent pas que c'est Jésus. Et il dit, en commençant par Moïse, et Moïse, en fin de compte, a écrit ce qu'on vient de lire en Genèse, même s'il n'était pas vivant, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, cette histoire de la rédemption. Ça parle tous les livres de la Bible, de Jésus et du Messie. Et à partir de la création, on voit cette histoire de rédemption qui remplit le cœur de tout le monde d'espoir. Et ça nous amène à notre Sauveur et notre Seigneur Jésus. Et une des façons, c'est par les sacrifices. Et puis, les sacrifices, ce n'est pas quelque chose qu'on aime voir, qu'on aime penser beaucoup à ça. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi il y a tant de sang? Pourquoi tant de sacrifices dans la Bible? Pourquoi est-ce que les Israélites étaient obligés de faire tout ça? C'est parce que une fois que Dieu a offert un animal pour faire des peaux, pour couvrir Adam et Ève, c'était le précédent du sang. C'est par le sang qu'on peut s'approcher de Dieu. Et tout le système de sacrifice est résumé dans le verset que vous avez devant vous, en Lévitique 17:11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, pourquoi? Afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, c'est en Lévitique qu'on voit le plus de mots de Dieu. si vous vous êtes déjà posé la question, dans quel livre est-ce que Dieu parle le plus et on a le moins de toute autre chose, les personnes qui parlent, l'histoire, c'est Lévitique, où on a le plus de mots de Dieu dans toute la Bible, parce que ça parle du salut, et le salut est tellement cher pour lui, parce que c'est sa façon de s'approcher de nous, nous qui nous sommes éloignés de lui. Parce que le nom de Jésus veut dire quoi? Salut. Il est venu nous sauver de nos péchés. Et c'est pourquoi on ne l'a pas appelé Emmanuel, comme l'autre prophétie en Ésaïe? Parce qu'il faut qu'il nous sauve pour être Dieu avec nous. Il ne peut pas être avec nous s'il ne nous sauve pas de sa juste colère qui accompagne nos péchés. Ce n'est pas le sang des animaux qui nous sauve. C'était juste une couverture temporaire qui nous montre le sacrifice final du Fils de Dieu. Et, par exemple, quel est l'animal le plus sacrifié au temple? C'est l'agneau. L'agneau a été le premier et le dernier, le alpha et l'oméga. À 9 heures le matin, on a le premier agneau qui est sacrifié, à 3 heures de l'après-midi, le dernier. Il y en a deux par jour minimum, sans faute. Et c'est Ésaïe qui a mis tout un lien entre l'agneau et le Messie. Et nous le voyons ici en Ésaïe 53, 7, où ça dit que Jésus, dans le fond, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ce verset est cité, savez-vous combien de fois? Juste ce verset-là dans le Nouveau Testament, 10 fois. 10 fois! C'est beaucoup. On voit à quel point c'est important, ce verset-là, que le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a donné ça 10 fois à ceux qui ont écrit le Nouveau Testament. En 1 Pierre 1,19, je vais juste vous lire le verset, ça parle de la pureté de l'agneau. Ça dit le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, on voit aussi comment il était doux, Jésus. Il était soumis à la volonté de Dieu. Donc, le sacrifice de l'agneau, c'est un type, une image de Jésus lui-même. Et l'autre qui nous touche aussi dans l'histoire, c'est l'histoire d'Abraham et Isaac. Je pense que j'ai déjà enseigné ça ici. Qui a rapport avec la crucifixion du Messie. Parce que quand Dieu a demandé à Abraham d'aller à une montagne, le mont Moria, la même montagne où Jésus est mort, Isaac portait le bois pour le sacrifice et dit à son papa, « Abba, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » En Genèse 22, 7. Et Abraham, par la foi, a dit, « Jéhovah, j'irai. » Dieu pourvoira, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Mais quand c'est le temps de sacrifier, où était l'agneau? Ah non, il y avait un bélier qui était pris. Et puis l'agneau n'a pas été sacrifié comme Abraham a dit. Pas tout de suite en tout cas, mais 1500 ans plus tard, 2000 ans plus tard, oui. Cet agneau a été sacrifié parce que Jésus est mort sur la croix, sur la même montagne qu'Abraham avait amené Isaac. Dieu l'aura dirigé à la montagne parce que lui, il savait que son fils, pas le fils d'Abraham qui devait mourir, mais son fils lui-même, même c'est le fils qui a dit à Abraham, « Non, 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 fais pas ça. » L'ange du Seigneur qui était Jésus a dit, « Non, non, moi je suis l'agneau, moi je suis le fils, moi je vais venir mourir ici. » Pas besoin de tuer Isaac. On sait que c'était la même montagne parce qu'en Genèse 22, 2, ça dit que Salomon a construit le temple là. Et c'est là où Jésus, donc, il était Jérusalem, où Jésus est crucifié et aussi ressuscité comme nous fêtons aujourd'hui. Quand Jésus a parlé, savez-vous que Jésus a dit que Abraham l'avait rencontré? Abraham. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu un homme qui a dit, je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai rencontré Jésus. J'ai dit, voyons donc, tu sais, il est mort il y a 2000 ans. Tu n'as pas rencontré Jésus. Et puis, mais savez-vous que Abraham a rencontré Jésus? Oui, c'est mentionné en Jean 8, 56. Jean 8, 56 a dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie, comme les enfants qui dansaient en avant, de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Où c'est que ça s'est passé? Sur le mont Moria, sûrement. Donc, avec cet arrière-plan, retournons à la Pâque et à la démonstration. Qu'est-ce que cette fête représente? Quel est le message derrière? Mais avant la dernière des displays et avant la sortie des Juifs de l'Égypte, Dieu leur a dit de prendre un agneau, le sacrifier et de mettre son sang sur le linteau et sur les deux montants de la porte. Comment il a dit de le faire? Il a dit, frappez le linteau, frappez les montants. Je n'ai pas été élevé catholique, mais je comprends ça, là. OK? Vous voyez ce que ça forme. C'est clair. C'est une image très connue des Juifs. Comment? Parce que c'est la forme de la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. La Tav a déjà été écrite comme une croix. Et on dit, par exemple, en Ézéchiel, quand Dieu voulait protéger les gens qui étaient fidèles à lui, il a dit « marquez une croix, une tave sur leur front ». Ça, c'est Ézéchiel 9, 4. Ézéchiel 9, 4, Dieu demande un messager, il dit « passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et faites une marque ». Et le mot pour marque, c'est « tave », qui veut dire « croix », parce que c'est à la forme d'une croix. La tave, la dernière lettre, c'est comme la lettre Z, la dernière lettre de l'alphabet. Faites une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils s'y commettent. Donc, on voit que la croix, c'est une vieille symbole, vieille symbole. Quand le Messie est mort, c'était sur une tave, sur une croix. C'est ce qui a accompli cette prophétie puissante que nous voyons dans le psaume 22, 16 que vous avez devant vous. Quand David a parlé de la mort du Messie, quand ça dit « ils ont percé mes mains et mes pieds ». Et ici, c'est le sens de la fête. Ici, là, l'agneau pascal dont le sang est appliqué de cette façon-là représente le Messie. Son sang a protégé les Israélites. Le sang du Messie peut nous protéger aujourd'hui si nous l'appliquons à notre cœur maintenant, aux portes de nos cœurs, si on le laisse entrer, si on y fait confiance de nous pardonner pour nos fautes contre lui, plus zéro, absolument rien d'autre. On se rappelle ce qu'on a déjà lu en Ésaïe 53, ce que j'ai déjà mis, quand ça dit, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, c'est le verset 10 fois dans le Nouveau Testament, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Ésaïe, Jean le Baptiste, Paul, tout le monde a compris que l'agneau pascal, c'est Jésus, c'est le Messie. Le nom hébraïque pour cette fête, c'est Pessach, et c'est comme quand, c'est parce que quand l'ange de la mort a passé à travers le pays d'Égypte quand il a vu une maison dont le sang était appliqué comme ça sur la porte. Il a passé par-dessus la maison. C'est de là où vient le nom pour la fête. Donc, le mot « Pâques » vient du mot « passer par-dessus ». C'est « Pâques » ne veut pas dire « chocolat » en passant. Donc, la fête de la Pâque, ça, c'est pas dans les notes, mais en tout cas, je vous l'explique. Donc, la fête de la Pâque est fêtée chaque année avec les éléments que j'ai ici, et on va regarder, c'est dans vos petites boîtes, et c'est des choses semblables qui étaient sur la table quand Jésus a eu la la Sainte Cène, le dernier souper. On va commencer avec ce que j'ai ici. J'ai des chandelles ici. Parce que la première chose, tu vois, le soir de la Pâque commence un jour qu'on appelle un sabbat. Et pendant le sabbat, on n'a pas le droit de faire du feu. Donc, si s'il est 6h30, je ne sais pas moi ici, je n'ai pas remarqué à quelle heure le soleil se couche ici maintenant, mais à Hawaï, il était noir, il faisait noir à 7h le soir. Donc, si tu veux avoir de la lumière, il faut allumer quelque chose avant. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais allumer les chandelles. Et quelle est la première chose que Dieu a créée? C'est la lumière, c'est pas le soleil. On voit sa gloire Shekinah, parce que le soleil n'était pas encore créé quand il y avait de la lumière, et la lumière fut. C'était pas le soleil. Le soleil a été créé le troisième jour. Hein? Mais c'est sa gloire à lui qui a brillé partout. Donc, pour le croyant juif, le menorah, ça c'est une Hanoukia, parce qu'il y a 9 branches. D'habitude, Jacques met un avec 7 branches, mais cette fois-ci, il a mis 9 qu'on utilise pour Hanouka. Et puis, il faut avoir de la lumière pour la table. Donc, je vais faire la bénédiction en hébreu et ensuite en français. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kidshanu al yedei HaMashiach Yeshua Or haolam Amen. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui nous a sanctifiés par les mérites de Yeshua le Messie, la lumière du monde. Amen. C'est sûr que les Juifs disent une autre prière que celle-là. Le deuxième item, c'est le Haggadah. Je n'ai pas apporté d'exemplaire parce que je n'en ai pas avec moi en français. Le mot Haggadah veut dire « et vous, tu raconteras ». Ça contient les prières et l'histoire de l'Exode. Ça prend 2-3 heures à lire au complet et chaque membre de la famille en a un. Et tout le monde, même les enfants, prennent un tour à lire un paragraphe ou deux pendant toute la soirée. C'est pris de Exode 13, 8 que vous avez devant vous. « Tu raconteras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti de l'Égypte. » Parce qu'on est tous appelés à penser que nous sommes pris dans l'esclavage. Peut-être pas en Égypte, mais l'esclavage au péché, n'est-ce pas? Et beaucoup des écrits que vous avez dans ce livre-là sont trouvés dans la loi orale juive. Pourquoi il y a à peu près 1200 sortes? Et même, j'ai parlé à quelqu'un dernièrement qui a dit, « Ah oui, moi j'ai écrit un Haggadah. » C'est comme à la mode là, d'écrire son propre Haggadah. Pourquoi il y a tant de sortes de ce livre-là? Mais vous connaissez peut-être l'expression, il y a 2 juifs et 3 opinions. C'est une vieille expression, là. Tu entends des humoristes dire ça depuis longtemps. L'histoire d'Israël, c'est un genre de tapis de tisser ensemble des opinions qui s'opposent, qui... En tout cas, on n'est pas tous d'accord sur grand-chose, dans le fond. On est toujours en train de se disputer les uns avec les autres. Même si c'est un art, il y a un mot pour l'art de disputer avec d'autres personnes. Ça s'appelle pilpoul. Pilpoul, ça veut dire poivrer. Et il y a aussi une version messianique. Nous vendons une version messianique que le Dr. Fruchtenbaum a écrite. Et puis, ça correspond évidemment avec les événements de l'Exode et la dernière scène. Il y a toujours une assiette sur la table, toujours. Comme cela, je ne peux pas vous montrer plus que ça, là, parce que là, il y a des choses qui vont tomber. Mais en tout cas, je vais vous montrer, dans le fond, ce qu'il y a dans l'assiette. Je ne peux pas le tourner vraiment. On voit, il y a aussi le pain sans levain, c'est dans ça aussi, on va voir ça tantôt. Vous avez des morceaux plus petits, des carrés de ça sur la table où vous êtes. Et puis, il y a toujours une assiette comme cela sur la table. Ils sont faits dans toutes sortes de choses. Et il y a aussi des coupes de jus de raisin ou de vin. Il y a une assiette. Dans le temps de Jésus, on ne voit pas d'évidence qu'il y avait ça. Mais on a déjà une mention de ce genre d'assiette-là dans l'an 600. Puis il y a six petites places creuses là, où on met des choses. Il y a le pain sans levain, il y a le persil. Ici, c'est les herbes amères. Ici, c'est un œuf. Ici, c'est un os d'agneau. Ici, c'est le harosset qui est un mélange de pommes et de noix. S'il y a quelqu'un allergique aux noix, touchez pas à ça. Il y a des noix dedans. Et aussi, il y a d'autres sortes d'herbes. Des fois, on prend un oignon. Des fois, on prend de la laitue. Des fois, on prend, en tout cas, c'est un autre légume vert qui a un goût un peu amer. Imaginez que vous arrosez pas du tout votre laitue dans votre potager, ça devient amer. Donc, en Égypte, peut-être, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Donc, c'est considéré comme une herbe amère, la laitue. Puis, il y a quatre coupes de vin, pas des coupes énormes qu'on vide ça quatre fois avec du vin, sinon on roulerait pour sortir après. Là. Mais quatre fois, les Juifs vont boire au moins d'une coupe. Et puis, on va regarder ensemble maintenant le kiddush, qui veut dire sanctifier. Ici, on utilise cette pièce comme une sanctuaire. C'est mis à part pour quelque chose. Si vous êtes croyant, il faut que vous vous mettiez à part pour servir Dieu. Vous êtes sanctifié. On doit vous utiliser, Dieu veut vous utiliser pour ses fins à lui. Comme ça, vous êtes sanctifié, vous êtes mis à part. Donc, au tout début du repas, on le met à part pour le dédier, si vous voulez, et dédier toute la soirée à lui. Chaque famille doit prendre quatre coupes de vin ou boire quatre fois. Et s'il y avait une famille pauvre qui n'avait pas assez d'argent, la synagogue va pouvoir le vin pour ça. Et il y a trois découpes qui sont mentionnées dans les évangiles. La première, troisième et quatrième. On voit que Jésus les a pris, il bénit et nous enseigne des choses. Et chacune des coupes a un nom. La première coupe s'appelle une coupe de bénédiction. On voit ça parce que ça bénit, ça met à part la soirée. On voit ça en Luc 22, 14 à 18. Ça dit, l'heure étant venue, il s'est mis à table. Donc, c'est le début de la soirée. Il se met à table, OK? Et les apôtres avec lui, et au verset, c'est verset 14 et verset 17, ça dit, « Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. » Donc, il commence le repas de la Pâque avec le kiddush, avec une coupe. C'est la dernière journée qu'il va prendre du vin, parce qu'il dit, la prochaine fois, ça va être au royaume, quand il va être avec nous, on va fêter la noce de l'agneau, notre noce, et c'est ce qu'il dit au verset 18. Donc, c'est écrit que Jésus et les apôtres s'inclinaient, donc ils s'inclinaient du côté gauche, donc pendant qu'on prend cette coupe, souvent on va s'incliner du côté gauche, et ça nous démontre aussi qu'on est libre de l'esclavage, on va mettre des pantoufles au lieu des souliers. On va des fois même mettre un genre de robe de chambre par-dessus nos beaux habits. On s'habille vraiment très, très, très bien. On s'habille en robe et tout. Là. Pour les femmes, on est toutes tirées aux quatre épingles, tout le monde, pour une soirée de la Pâque. On ne vient pas en jean. Okay? Donc, on va dire la bénédiction ensemble. Là, Jackie dit, vous pouvez ouvrir vos boîtes. Bonne chance. C'est pas évident. Et vous allez prendre votre petite coupe qui a du jus de raisin dedans. Et vous allez prendre ça, vous allez lever ça avec moi. Je vais prononcer la bénédiction. En hébreu, qui est écrit en haut, mais vous n'êtes pas obligé de lire l'hébreu, OK? Et puis, c'est écrit aussi en lettres que nous reconnaissons en bas, au centre. Et puis, moi, je vais le dire, et ensuite, on va le dire en français, ensuite, on va boire, OK? Donc, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagefen, amen. Là, on va le dire ensemble. Baruch, c'est comme une chanson à répondre, OK? Vous connaissez ça. Ata Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Borei Piri, Hagefen. OK. Béni sois-tu, éternel, notre Dieu, roi de l'univers, créateur du fruit de la vigne. Amen. L'chaim. Tu peux prendre, tu peux boire, tu peux tout boire si tu veux. La deuxième coupe, on l'appelle la coupe des plaies, parce qu'on va raconter toutes les plaies d'Égypte. Où on raconte ça, où on appelle ça la coupe de l'Agada, parce qu'on raconte l'histoire de l'Exode. Et cette coupe n'est pas mentionnée dans les évangiles. La deuxième coupe, c'est la seule qui n'est pas mentionnée. La troisième coupe, on appelle la coupe de la rédemption ou la coupe de la résurrection. Et ça représente la résurrection et la rédemption physique d'Israël quand on est sorti à l'Exode. Cette coupe est mentionnée dans les évangiles. C'est dans Luc 22, verset 20, ça dit, « Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » C'est à cette troisième coupe qu'on voit l'origine de la coupe dans la fraction du pain, dans la communion qu'on fait dans les églises. On voit à quel point Israël et l'Église sont reliés, hein? Dans les Écritures, on voit que les Juifs sont reliés avec la parole, l'Église est reliée aux Juifs et avec la quatrième coupe, on l'appelle la coupe de louange et des fois on l'appelle la coupe de salut parce qu'on chante une partie des psaumes, les psaumes 113, jusqu'à 118, s'appelle Hallel, qui veut dire louange. C'est de là où vient notre mot Alléluia. Hallel veut dire louange. Louer, louons l'Éternel, louons le Seigneur. Alléluia, c'est que nous louions. Okay? Et ça parle, surtout dans à la fin de ces six psaumes, le dernier, le psaume 118, parle du salut. Parce que dans le verset 22, ça dit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Donc, c'est comme si Dieu utilise même leur tradition pour leur montrer Jésus. C'est juste avant d'être crucifié que Jésus a dit ce verset-là, même si ce n'est pas marqué dans les Écritures, ça dit qu'après avoir chanté, ils sont allés au Mont des Oliviers et c'était la tradition de dire ces six psaumes-là. Mais tu vois que chaque année, les familles juives, comme ma famille, a dit ce verset qui parlait du rejet de la pierre angulaire. comme Dieu prend toutes les occasions pour essayer de leur montrer Jésus, même dans leur tradition. Quel témoignage! Mais ici, on a une chaise avec une autre coupe. Avez-vous remarqué? Qu'est-ce que ça représente? Plus tard, je vais vous en parler. Pas tout de suite. Suspens. Là, on arrive à la cérémonie qu'on appelle le urhats, qui veut dire laver, parce qu'on se lave les mains pour enlever l'impureté rituelle pendant le temps du temple. Mais il n'y a pas de temple aujourd'hui. Donc, c'est juste une façon de nous rappeler la procédure qu'on suivait au temps du temple. Et avec l'espoir que les Juifs vont avoir leur temple de nouveau, et ils vont être obligés de le faire, mais le temple qu'ils vont construire ne va pas être approuvé par Dieu, donc on ne va pas se réjouir de ce temple quand ça va être construit. Mais la cérémonie de ce qui se passait est en Jean 13, presque tout le chapitre. Et d'habitude, quand on arrive à la maison, il y a un serviteur qui nous lave les mains. Mais là, c'était une maison prêtée où ils ont fait la Pâque. Et puis, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est séparé de la tradition juive et lui, il a pris le rôle d'un serviteur. En faisant le lavage, il n'a pas lavé les mains, il avait les pieds. Wow! Et puis, Jean 13, versets 3 à 5, ça dit, et moi je fais le commentaire moi-même, comment est-ce qu'on peut servir si nous connaissons qui nous sommes? Pour laver les toilettes, si on le fait les dents grincées, parce que j'aime pas ça, puis je mérite d'être autre chose que ça, là. Mais si tu sais que tu es la fille du roi, laver la toilette, qu'importe. Tu sais qui tu es aux yeux de Dieu. Donc, Jésus savait qui il était qui a fait qu'il a pu laver les pieds de quelqu'un. Ça dit qu'il savait que Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, il avait tout, lui, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu. Il savait qui il était, donc il a pu servir. Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Vous voyez, en connaissant qui il était, il a pu servir. C'est à travers cette cérémonie que Jésus nous a donné l'esprit de servir. Tous les chrétiens sont appelés à servir les uns les autres. Et ici, Jésus a mis en pratique ce qu'il avait déjà dit quand il a dit « Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur » à Marc 9, 35. Le prochain item, c'est l'os de l'agneau. Oh, pardon, j'ai pas mis le verset. L'os de l'agneau, ici, j'en ai un. Après la destruction du temple, on a interdit qu'on mange de l'agneau parce qu'on n'avait plus de place pour les sacrifier rituellement. Donc, on met juste un souvenir du repas avec de l'agneau. C'est comme si chez McDo n'existait plus, puis vous aviez juste une boîte d'un Big Mac vide. Okay? C'est juste un souvenir de ce que c'était. Ça, c'est un souvenir de ce qu'il y avait. Et pourquoi on le prend de l'avant-bras de l'agneau? Parce que c'est avec un bras étendu que Dieu a sauvé les Juifs de l'Égypte. Ça, c'est en Deutéronome 26, verset 8. Et là, on voit le lien entre l'agneau pascal et aussi la crucifixion du Messie. Parce que selon la pratique biblique, l'agneau devait être mis à part, encore là l'idée d'être sanctifié, le dixième jour du mois. Entre le dixième jour et le quatorzième jour, on examinait cet agneau partout pour voir s'il y avait un défaut, si ça boitait, s'il y avait un problème avec. On voulait être sûr que c'était sans défaut. Donc, on l'a gardé à l'intérieur d'une petite maison. Les maisons juives, là, c'était comme la moitié de la scène ici, là. C'est des petites affaires. Et puis, imagine ce que c'est de garder un animal sauvage comme ça dans, chez vous, là. Donc, Jésus, quand est-ce qu'il est entré à Jérusalem pour l'entrée triomphale, dimanche des rameaux, tout ça, c'est le dixième du mois. Et après ça, il y avait les Hérodiens, les Sadducéens, les Pharisiens qui ont essayé, et les scribes, de trouver un défaut, essayer de l'attraper dans une erreur. Dans le fond, à leur insu, ils examinaient l'agneau pour voir s'il y avait un défaut. Ils ne savaient pas que c'était ça qu'ils étaient en train de faire. Mais on n'a pas pu l'attraper, donc il s'est qualifié pour être le sacrifice final. Et le 14e jour, Jésus a été crucifié à 9 heures le matin. Donc, après l'agneau qu'on mange en famille, autour de tous ces aliments-là, le lendemain matin, le prêtre sacrifiait un agneau au temple pour toute la congrégation d'Israël. Quand est-ce que Jésus a été crucifié? À 9 heures le matin. La même heure qu'on tuait un agneau au temple. Donc, il y avait deux agneaux, hein? Même trois si tu comptes Jésus. Et il n'y a aucun os qui pouvait être brisé quand on faisait ce sacrifice, et pas un seul os a été cassé en Jésus non plus. Imagine les enfants qui s'attachent à l'agneau pendant les 4 jours que c'est à la maison. Et peut-être ils se posaient la question, mais pourquoi est-ce qu'il faut tuer ça puis manger? Il est devenu mon ami. Il ne mérite pas ça. Mais ça doit nous faire penser que Jésus ne méritait pas, lui non plus. Il était innocent, lui aussi. Mais il est mort pour nous. C'est à cause de mes péchés qu'il est mort, de vos péchés qu'il est mort. Là, on va faire la prochaine cérémonie, c'est le persil. Donc, prenez un petit bout de persil et débouchez votre petite coupe qui a du liquide. Oh, là, j'ai mon liquide, c'est l'autre côté. C'est de l'eau salée. Pas mon eau salée. Bon, je vais partager avec quelqu'un. Je pensais que j'en avais ici. OK. Merci. Donc, prenez votre petit morceau de persil. C'est un symbole de l'hysope. L'hysope, c'est un genre de branche qu'on mettait, qui a les feuilles poilues qui gardent le sang, s'il y avait du sang. Ici, ce n'est pas du sang, c'est de l'eau salée. Le persil, c'est un symbole de cette hysope, mais le symbole du printemps, Sarah m'a dit hier, c'est le printemps. Je dis, ah oui, j'arrive d'Hawaï, il faut dire. Hein? Il a dit, et quand on pense au printemps, on pense à quelque chose de vert. Et vert aussi, c'est le symbole de la jeunesse. Donc, quand Israël était jeune, Dieu leur a sauvés par les eaux salées de la mer Rouge. Donc, aussi, au temps de Jésus, peut-être on a utilisé du vinaigre, c'est possible. Et on trempe ça 2 fois et on le mange près du début de la soirée. Et l'eau salée nous représente les larmes des Juifs qui ont souffert dans l'esclavage et aussi les eaux de la mer Rouge qui sont tous les deux salées. Et cette cérémonie est mentionnée en Matthieu 26 et aussi en Marc 14. Et Jésus a annoncé que quelqu'un devait le trahir. Il a dit en Matthieu 26, versets 20 à 23, « Le soir étant venu, s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Donc, il a identifié. Parce que en même temps que Jésus a pris le persil ou le céleri ou ce qu'il a utilisé, Judas a fait ça en même temps, vous voyez? Okay? Parce qu'il y a deux fois que Jésus va identifier celui qui va le trahir. Mais cette fois-ci, les deux personnes mettent leurs mains ensemble dans le plat. Ça va être différent la deuxième fois. Donc, pourquoi les onze ne l'ont pas attaché à sa chaise? Hein? Hey, hey, hey! Parce que Dieu a dû cacher ça de leurs yeux. Parce que Jésus devait mourir. C'est par la grâce. Donc, il aurait empêché Jésus d'aller à la croix. Donc, on va procéder avec la bénédiction. Vous pouvez tremper ça deux fois et le tenir dans vos mains. Tenir dans vos mains, vous avez compris. OK. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri ha'adama. Donc, ensemble, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri ha'adama. Ensemble, béni sois-tu notre éternel créateur, Dieu de l'univers, créateur des fruits de la terre. Et là, on mange. Ici, on parle maintenant des trois matzahs. L'afikomen, c'est un mot grec. Ici, j'ai quelque chose qui contient trois morceaux en un. Une pochette, trois morceaux. Okay. Au début de la cérémonie, la soirée, les Juifs vont prendre celui du milieu, vont le casser en deux, vont envelopper un morceau dans un morceau de lin, ils vont l'emballer et ils vont le cacher ou mettre dans une place haut. Okay? Les Juifs ne comprennent pas pourquoi ils font ça. D'ailleurs, ils disent c'est Abraham, Isaac et Jacob, mais Isaac n'a pas été sacrifié. Pourquoi briser le troisième? Où il donne d'autres explications. Et quand on prend la troisième coupe, on ressort le morceau, on le développe et puis on donne des morceaux à tout le monde. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Comme j'ai dit, ils ne savent pas, dans le fond. On va regarder le mot lui-même, « afikomen ». Afikomen, ça veut dire que c'est une cérémonie relativement neuve. Ça ne date pas de 3500 ans. C'est peut-être même après le temps de Jésus. Le Dr. Fruchtenbaum dit que c'était avant le temps de Jésus. C'est disputé, on ne sait pas. Il y a deux parties de ce mot, épi et comen. Comen, ça veut dire un grand festin. J'ai pensé au mot espagnol. C'est comera, c'est ça? Un repas? En espagnol, comida, comida, oui, c'est pas loin, c'est comen. Et le mot veut dire un souper et ce qui vient avec, et épi veut dire à cause de. Donc, à cause du grand festin. Quel festin dont on parle? Le festin qui est futur pour nous, dans le royaume messianique. Quand Jésus reviendra avec nous, sur la planète pour les 1000 ans de son règne. Pourquoi ces trois matzahs? Mais c'est sûr que ça nous fait penser au Messie, parce qu'il a dit, « Prends, ceci est mon corps. » Donc, le premier matzah, c'est sûrement Dieu le Père, et le dernier, Dieu l'Esprit. Comme on lit, ça c'est le meilleur verset dans tout l'Ancien Testament qui parle de la Trinité. Pour nous, c'est Ésaïe, 48, c'est une façon de vous rappeler, c'est l'année que Israël a été fondé en 1948. C'est comme ça que je me rappelle. Donc, ça, c'est parce que les témoins de Jéhovah et les Mormons vont mélanger les mots du nouveau pour essayer d'enlever la Trinité, mais ils ne s'occupent pas de l'ancien. Ça, c'est le verset à leur montrer. Et maintenant, on va compter le Seigneur, j'aurais pu souligner l'Éternel, ça c'est un. M'a envoyé, c'est deux. Avec son esprit, c'est trois. Un, deux, trois. Voilà. Donc, ça nous rappelle quand on va le rencontrer, Jésus. Mais comme j'ai dit, les Juifs ne savent même pas. On va regarder juste un moment le matin. Vous allez voir d'abord que c'est sans levain, c'est plat, parce que le levain représente toujours le péché. Jésus est sans péché, donc quand nous prenons ça, on se rappelle qu'il est sans péché. Et même, on ne peut pas, dans tout le processus pour fabriquer ce pain, ça ne peut pas prendre plus que 18 minutes. Et il perce ça pour laisser les bulles d'air sortir. Vous voyez que c'est percé. C'est strié pour nous rappeler, aussi pour empêcher que ça monte. Ça nous rappelle les versets de l'Ancien Testament qui parlent de celui qui est percé en Zacharie 12:10. Les Juifs, un jour dans l'avenir, dans les trois derniers jours de la tribulation que nous n'allons pas voir si nous sommes croyants, ça dit, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et par rapport au fait que c'est strié, ça dit, il était blessé pour nos péchés, Isaïe 53:5, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, en anglais c'est le mot stripe qui veut dire rayure, c'est plus clair, que nous sommes guéris. Et aussi, c'est comme ça que Paul parle de la Sainte Cène, un Corinthien qu'on a déjà vu. Et puis, donc on va prendre un petit bout de notre matzah. Donc, vous avez un carré, vous allez briser ça en trois, vous allez prendre trois morceaux dans ça. Si vous poussez selon les pointillés, ça va être plus facile à casser. Et on va dire la bénédiction ensemble. C'est un peu plus long. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al akilat matzah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al akilat matzah. Ensemble. Loué sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a amenés à célébrer la vie de Yeshua en mangeant cette matzah. Amen. On parle des 10 plaies. Puis on enlève une goutte de nos coupes pour chacune des 10 plaies. Chacune des 10 plaies était pour contrer, si tu veux, ou pour montrer que Dieu était supérieur à un ou plusieurs des dieux égyptiens. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ensuite, on mange des herbes amères. Pourquoi on mange du réfort? Pourquoi est-ce que les Juifs feraient ça? C'est pour nous rappeler l'amertume de l'esclavage. C'est parce que les conditions étaient très dures. Ça dit, ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et des briques. Donc, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Donc, les premiers Juifs étaient payés par les Égyptiens, mais ensuite, on est devenu des esclaves et c'est devenu amer. Donc, on voit la souffrance des Juifs depuis aussi le temps d'Égypte, mais aussi, moi, je ne vis pas à mon pays. C'est pas que être ici, c'est terrible d'être en esclavage. C'est pas si amer que ça, être ici. Mais je suis pas dans mon pays. Je suis pas en Israël. C'est encore une souffrance d'être jeté comme je suis en dehors de l'Israël. Donc, depuis 70. Donc, on va prendre, et je sais que vous voulez pas le faire, mais c'est bon de le faire. Vous allez prendre, vous avez un petit bâton, soit en bois, soit en plastique dans votre boîte, et vous allez ouvrir celui qui est rose, foncé, le réfort. Mettez pas beaucoup parce que c'est fort cette année. Ça dépend comment ça pousse. Des fois, c'est plus fort que d'autres. Cette année, Sharon et moi, on a constaté que c'est pas mal fort. Donc, vous mettez un petit peu avec votre bâton de réfort rouge dessus et vous écoutez ce que je vais dire. Selon la tradition, il faut mettre assez pour en pleurer. C'est juste une tradition, nous ne sommes pas obligés, nous sommes libres en Christ, n'est-ce pas? OK. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kirshanu b'mitzvotav v'tzivanu al akilat maror. Parce que vous vous rappelez, quand les eaux ont été amères, on appelait ça, Moïse a coupé une branche d'arbre, un tronc d'arbre, l'a mis dans l'eau, puis c'est devenu doux, l'eau est devenue douce. C'était Mara, amère, ou Naomi, quand elle est rentrée au pays, elle a dit, appelle-moi plus Naomi, appelle-moi Mara, amère. Donc, ça, c'est le mot pour Amer Mara. Donc, on dit ensemble, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kineshanu b'mitzvotav v'tzivanu al akilat maror. OK, on va faire toute une ligne chaque fois. Allez-y. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kineshanu b'mitzvotav v'tzivanu al akilat maror. Bravo. Loué sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et qui nous a amenés à commémorer les souffrances de ses élus. Amen. Il y a de l'eau si vous vous étouffez. Après cette cérémonie, on prend encore du matzah, encore du réfort, mais on va mettre l'affaire sucrée par-dessus. Donc, commencez à préparer vos petits sandwichs pendant que je vous parle. Donc, vous mettez un petit peu de rose et beaucoup de brun qui a des pommes, des noix, cannelle et jus de raisin et miel. Donc, mettez ça par-dessus et je vais vous expliquer ce que c'est. Vous allez trouver le goût pas mal meilleur. Mesa. Il n'y a pas de mot anglais ou français pour traduire le mot haroset. Haroset, c'est cette combinaison de ce que je viens de vous dire. Au Moyen-Orient, on utilise des dattes, des fois du vin, du miel, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on mélange tout ça ensemble? Ça nous rappelle le mortier et pour les faire des briques. Ça nous rappelle qu'on était des esclaves, on a fait des briques. Est-ce que quelqu'un ici est déjà allé en Israël? Okay. Quand je suis allé en Israël, j'ai touché à des briques faites avec de la paille et de l'argile. Vous ne mangez pas encore, hein? Jackie n'a pas dit, OK. J'ai vu ça, là. Licher les doigts. Okay. Je vous surveille de loin. Donc, j'ai touché à des briques qui ont été faites avec de la paille et de l'argile. Ça m'a rappelé mes pères qui ont dû, qui ont été obligés à faire des briques comme ça. Cette cérémonie est mentionnée dans les évangiles. Pourquoi est-ce qu'on mélange quelque chose de sucré et quelque chose d'amer ensemble? Mais avec l'amertume, on se rappelle les souffrances. Et le goût doux, on se rappelle la délivrance. Jésus a pris ce moment-là pour identifier une deuxième fois Judas. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez voir, oh, c'est différent. Il a dit, c'est celui à qui je donnerai. Ce n'est pas ensemble qui trempe. Jésus fait un petit comme ça, puis il le donne à Judas. Vous voyez la différence? Il a montré celui qui allait le trahir deux fois. Une fois quand Judas a trempé avec lui le persil, et deuxième fois, il a préparé tout ça, il lui a donné. Comment ça que les apôtres, tu sais, ça n'a pas enregistré, là? Parce que Dieu sûrement les a voilés, parce qu'il savait que Jésus devait mourir. Il devait être trahi comme Judas devait faire. Donc, on a une bénédiction pour ça aussi. Donc, levez vos petits morceaux. Et on va le dire tout le monde ensemble. Vous êtes bons. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei piri ha'adama. Fameux. Loué sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, créateur des fruits de la terre. Bon appétit. C'est merveilleux. On a presque terminé. Le soir de la Pâque, il y a toujours des œufs rôtis. Des fois, l'œuf qu'on va mettre, parce qu'on est là, on est Pâques, hein? Il y en a des enfants qui pensent aux œufs. Vous avez quelque chose à leur dire maintenant que je vais vous raconter, qui va vous surprendre. D'habitude, cet œuf-là est encore dans sa coquille, et puis on essaie, c'est difficile, je dois dire, à le brûler. Des fois, ça explose, donc pas si facile, mais on le noircit minimum. Peut-être je vais pouvoir réussir avec ça. Eh oui. Pourquoi est-ce que c'est noirci? Parce que c'est pour nous rappeler un événement quand le temple a été brûlé. Et un œuf, souvent, représente les sacrifices. Souvent, le soir de la Pâque, les Juifs vont manger des œufs cuits durs, tranchés ou des moitiés, et ils vont les tremper dans l'eau salée qu'on vient de prendre. Ça donne du goût, du sel avec des œufs. Et je ne sais pas pourquoi, ça je ne peux pas vous dire, mais l'œuf rôti représente le sacrifice qui a été offert le premier matin de Pâques. Donc, c'est sûr que Pâques, c'est 24 heures, après c'est 7 jours de la fête du pain sans levain. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mais Jacques a écrit, le fait que c'est rond, ça symbolise le cercle de la vie. C'est aussi un symbole de deuil par rapport à la destruction du temple quand on a dû arrêter de faire le sacrifice de l'agneau. Okay? Et puis, on met l'œuf à la place, surtout brûlé, pour montrer que le temple a été brûlé. Écoutez bien, ça c'est le petit bout à partager avec vos enfants, si vous voulez. Anciennement, dans le judaïsme, l'œuf est un symbole de la résurrection. Surprise. Peut-être c'est ça l'origine d'associer la résurrection de Jésus avec l'œuf de Pâques. C'était aussi un symbole du peuple juif. Hein? Si je fais cuire cet œuf pendant 10-15 minutes, peut-être ça va être bon. Qu'est-ce qui va arriver si je laisse ça cuire une heure? Je vois les femmes qui comprennent très bien. Ça va être dur. C'est exactement comment les Juifs deviennent sous la persécution. Plus tu les persécutes, plus ils deviennent endurcis. Intéressant. Bon. Donc, maintenant, je vais juste avant la fin vous dire pourquoi il y a une chaise ici avec un couvert, avec un verre et tout ça. Moi, j'ai appris que le Messie viendrait précédé par Élie. Et on met toujours une coupe pour Élie. Pourquoi, si on a la foi que le Messie va venir avec, on ne met pas une autre place pour le Messie? Ça, je ne sais pas. Mais on met, et ça s'appelle la coupe de Élie. Ça, je l'ai en hébreu ici, vous allez pouvoir venir regarder. Mais on met toujours un couvert. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une tradition, selon le livre de Malachie, où Dieu promet les Juifs qu'il va envoyer Élie avant la deuxième venue. Ça dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est quoi le jour de l'Éternel? À 100% du temps, quand vous le voyez dans vos Bibles, c'est la tribulation, c'est la grande tribulation. Donc, Élie va venir avant le Messie, revient avant la tribulation pour préparer la... Donc, quand le Messie ne venait pas, parce qu'on envoyait le plus jeune de la famille à la porte, et moi, j'avais hâte toute l'année pour ce moment-là. Je ne vivais que pour ça, parce qu'il allait me sauver de la des souffrances qui venaient de l'abus de mes parents. Et j'allais à la porte, il n'était pas là. Puis j'étais tellement déçue, je pleurais, j'étais en larmes, je voulais rester là plus longtemps, il allait venir, il va venir! Jackie, revient à table! Non, non, non! Il y a des haut-parleurs. Reviens à la table. Non, non, je ne veux pas. Mais Jackie, comment il va être à chaque maison? Je dis, je ne sais pas. J'ai dit, les chrétiens ont leur Père Noël, mais ça, c'est Dieu, il peut tout faire. Mais il n'était pas là. Et j'avais le cœur brisé chaque année jusqu'à ce que j'ai trouvé mon Messie. Donc, on finit la cérémonie l'an prochain alors. L'an prochain à Jérusalem. Mais nous, en tant que croyants, on peut dire, parce qu'ils espèrent que si Élie n'est pas venu cette année, peut-être l'an prochain, même on va fêter à Jérusalem, le temple va être reconstruit, tout va être merveilleux. Mais nous, en tant que croyants, on peut dire, peut-être ce soir, dans le nouveau Jérusalem, parce qu'on va être enlevé, peut-être même cet après-midi, avant que vous arriviez à la maison. Les vrais croyants vont être pris avec Jésus, puis on va partir. Donc, nous, on peut avoir hâte au Nouvel Jérusalem qui, peut-être, et pour vous aussi, vous avez déjà reçu Jésus comme votre Messie. Donc, quel est le message que nous avons à Pâques? Cet même agneau qui est le Messie lui-même peut vous sauver du jugement dont je viens de parler. Ça, c'est le message de la Pâque et de Pâques. Les Israélites ont cru la parole de Dieu et ont mis le sang. Dieu nous demande de croire à sa parole. En Jean 3, 36, ça dit, « Celui qui croit au Fils, est-ce que vous avez cru au Fils? Que c'est juste lui qui vous sauve? Plus zéro? Pas vos bonnes œuvres, ça ne fait rien, les bonnes œuvres. Celui qui croit au Fils, qui fait confiance au Fils pour leur pardon, a la vie éternelle. Mais qu'est-ce que ça dit par rapport à ceux qui ne croient pas? Continuez le verset que Jésus a dit lui-même. Jésus n'est pas juste quelqu'un qui parle juste l'amour, l'amour, l'amour. Il a parlé très clairement. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. De quel bord êtes-vous aujourd'hui? Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel et si vous voulez le recevoir, la Bible dit en Romains 10, 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux prier. On va prier et on va se fermer les yeux et courber les têtes. Et si vous voulez, si vous n'avez jamais prié cette prière-là, priez ça dans votre cœur ou tout haut si vous voulez, et vous allez connaître le pardon de Dieu éternellement. Jésus, aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. Aujourd'hui, je reconnais que tu es venu mourir pour mes péchés. Et aujourd'hui, j'ouvre les portes de mon cœur pour te recevoir comme mon sauveur. Merci, Père, d'envoyer ton Fils. Au nom de Jésus. Amen. Joyeuse Pâques.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.